Alors, je vous présente le conférencier de ce soir. Il s'agit de Claude Fermont, né en 1961, ancien élève de l'École normale supérieure, docteur de l'Université Paris 6, qui depuis 1986 est chercheur au commissariat à l'énergie atomique au service de physique de l'état condensé. Il a reçu en 1998 le prix Anatole Abraham de l'Académie des sciences et en 2008 le prix Aimé Poisson de l'Académie des sciences toujours, qu'il a partagé avec Madame Myriam Panetier-Lecoeur. Ses travaux portent sur le nanomagnétisme, l'électronique de spin, la résonance magnétique nucléaire et, j'ose à peine le dire, le biomagnétisme, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de gens ici sont très curieux de ces questions-là. Il a publié beaucoup d'articles, une centaine, dans des publications spécialisées, et un livre sur magnétisme et neutrons, mais c'est un livre, je dirais, de science et pas un livre uniquement de vulgarisation. Voilà, donc je lui laisse la parole pour la durée habituelle, jusqu'à une heure, et puis, pas une heure du matin, rassurez-vous, une 60 minutes, et puis je reviendrai ici pour la série des questions. Voilà, merci.
Donc, merci pour cette introduction. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le monde des capteurs magnétiques que vous voyez là-haut. Je vais rester assis en face de mon ordinateur, ce qui me permet de voir l'écran un petit peu mieux que l'écran qui est au-dessus, qui est vraiment difficile à voir sur l'estrade. Donc, pourquoi est-ce qu'on rentre dans le monde des capteurs magnétiques? C'est pour essayer de répondre à une question. Et ce soir, je vais essayer de répondre à cette question. Nous fabriquons chaque année 4,5 milliards de capteurs qui sont faits. Donc pourquoi fabrique-t-on tant de capteurs magnétiques? Pour essayer de répondre à cette question, l'exposé de ce soir va être découpé en trois parties. Donc, la première partie va d'abord introduire la notion de capteur. Et pour pouvoir l'introduire, je vais prendre un capteur naturel qui est notre oreille. Ensuite, je vais vous parler des capteurs magnétiques. Et enfin, je vais arriver à leur utilisation. À quoi peuvent-ils servir dans notre quotidien? Donc, un capteur, c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre de transformer une grandeur physique, comme par exemple une pression, une lumière, une température, en une autre grandeur que l'on va pouvoir exploiter. En général, cette autre grandeur, c'est une grandeur électrique. Alors, pourquoi faisons-nous ça? C'est simplement parce que le courant électrique, c'est un moyen de transporter de l'information, de la traiter, de la stocker, ou bien de réaliser des actions. Si on prend par exemple les ordinateurs ou les microcontrôleurs qu'il y a dans les objets technologiques qui nous entourent, ils fonctionnent grâce à la manipulation de courant électrique et ils vont pouvoir comme ça traiter l'information que leur donnent les capteurs. Donc nos capteurs naturels sont reliés à nos cinq sens. Donc les cinq sens sont l'ouïe, le goût, la vue, le toucher, l'odorat. Et à chacun de ces sens est relié un capteur. Pour lui, ce sont les oreilles, pour la vue, ce sont les yeux. Pour le toucher, le goût ou l'odorat, ce sont des milliers de capteurs qui sont placés sur la peau, dans notre bouche ou dans notre nez. Ces capteurs sont reliés par les nerfs, qui en fait transportent l'information via un courant électrique au cerveau, qui est notre unité de traitement de l'information. Et donc, on voit bien là le sens du capteur qui prend une information, comme par exemple un son, une lumière, ou un toucher, donc un contact, et qui le transporte au cerveau. Alors, comment marche un petit peu notre oreille? Notre oreille, c'est un capteur de pression extrêmement sophistiqué, c'est-à-dire qu'il va recevoir la pression de l'air qui change en fonction du son qui est reçu. On a une petite vibration à l'intérieur qui va faire bouger des petits cils, et ces petits cils vont transmettre une information électrique à travers le nerf auditif jusqu'à un endroit du cerveau qui s'appelle l'air auditif. Donc nous voyons bien le capteur qui part de l'oreille et qui est vraiment notre élément sensible. Alors quand on va parler d'un capteur, on va parler d'un certain nombre de grandeurs. Alors la première grandeur, c'est ce qu'on appelle la détectabilité ou le signal sur bruit. Dans le cas de l'oreille, c'est le plus petit son qui est détectable par l'oreille. C'est par exemple le son que ferait une feuille qui tombe doucement par terre. Ensuite, on va parler de dynamique. Alors, la dynamique, c'est En fait, la limite de sensibilité, c'est-à-dire le plus petit son qu'on peut entendre pour l'oreille, jusqu'au moment où on sature le capteur. On sature le capteur, par exemple, dans un concert extrêmement fort, ou si vous entendez un avion passer. Vous êtes près d'une piste. Et on va pouvoir définir une troisième grandeur qui est importante pour le capteur, c'est ce qu'on appelle la plage de mesure. C'est-à-dire, un capteur, il va pouvoir détecter des sons, ou des, par exemple pour l'oreille, sur une certaine plage de fréquence qui va pour l'oreille de 20 Hz, c'est les sons les plus graves, jusqu'à 20 kHz, qui sont les sons les plus aigus. Et donc vous voyez sur la figure qui est là, par exemple, qu'on va, en fonction de la fréquence, avoir une limite de détection qui change et d'avoir une limite de saturation qui change aussi. Donc un capteur va être défini par ces trois principales grandeurs, la détectabilité, la dynamique, la plage de mesure. On va pouvoir définir un certain nombre d'autres grandeurs d'un capteur. La suivante, c'est ce qu'on appelle la précision ou la résolution de mesure. Par exemple, pour l'oreille, c'est comment pouvons-nous distinguer un « la » d'un « la » qui serait un petit peu faux. Si vous prenez l'oreille d'un musicien, il est capable de distinguer un « la » à 440 Hz d'un « la » à 441 Hz. Donc une petite différence entre les deux. Ensuite, il y a la rapidité de réponse. Est-ce que le capteur répond vite ou lentement ? En général, les capteurs naturels, comme l'oreille, répondent en quelques dizaines de millisecondes. Ce sont des temps assez lents. Il y a une autre quantité qui est très importante pour les capteurs, c'est la linéarité. La question est là, est-ce que, quand par exemple vous entendez un bruit pour l'oreille, est-ce que si vous apparaît fort ou faible, est-il vraiment proportionnel à la source qui a créé le bruit. C'est-à-dire, est-ce que l'information que vous recevez est vraiment proportionnelle à la grandeur qu'il a créée ? Et cette linéarité est, je dirais, un point clé des capteurs technologiques que nous essayons de fabriquer. Et enfin, il y a une dernière chose, qui est-ce qu'un capteur est absolu ou relatif ? En musique, par exemple, on va parler de gens qui ont l'oreille absolue. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont capables d'entendre un son et de dire sans aucune référence, ça, c'est un « la » qui est juste. Un capteur, c'est exactement la même chose. On va parler de capteur absolu s'il est capable de vous donner la mesure exacte sans aucune référence. Et un capteur relatif, c'est un capteur, comme je dirais que chacun de nous, qui a besoin d'une référence pour ajuster sa grandeur. Alors, les capteurs technologiques sont assez différents des capteurs naturels et on en trouve un très très grand nombre autour de nous. Donc là, j'en ai cité quelques-uns sur ce transparent. Vous avez les capteurs de lumière, que vous trouvez par exemple dans les appareils photo, qui permettent de transformer de la lumière en un courant électrique. Vous avez des capteurs de pression, des capteurs de température, que vous trouvez par exemple dans les stations météo, ou bien pour commander votre chaudière, qui vont transformer une température, une pression, en une résistance, ou bien une capacité électrique. Vous avez des capteurs de position, un exemple ce sont dans les manettes de jeu, par exemple, ou dans la souris qui me permet actuellement de bouger le petit curseur sur votre écran, qui va transformer une position en une résistance électrique. Et vous avez de très très nombreux capteurs chimiques, comme par exemple les capteurs de gaz, qui vont en général essayer de transformer une information chimique, la présence ou l'absence d'un gaz, en une quantité électrique. Alors pourquoi est-ce que les capteurs sont importants ? En fait, on cherche tout le temps à développer de nouveaux capteurs, et quand on dit de nouveaux capteurs, ça va être souvent des capteurs plus petits, plus sensibles, plus précis, qui donnent plus d'informations, souvent plus intégrés pour pouvoir les mettre dans des objets qui sont plus transportables, et quelque chose qui est vraiment souvent important, c'est plus économique. Et la raison de fond, elle est qu'un capteur, ça peut être un élément essentiel dans l'évolution d'une technologie. Alors, je crois que l'exemple le plus marquant de ces dernières années, ce sont les capteurs de lumière qui sont utilisés, capteurs CDD qui sont utilisés. Le jour où on a été capable de développer un capteur avec suffisamment de points, suffisamment petit et suffisamment peu cher, on a révolutionné le domaine de la photographie. On est passé d'un coup de vos appareils photo argentiques avec leurs pellicules aux appareils photo numériques. Et vous voyez que ce petit élément-là a joué un rôle absolument essentiel dans le basculement de toute une technologie. C'est l'importance des capteurs qui nous entourent. Et donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et aborder le sujet des capteurs magnétiques. Alors, les capteurs magnétiques, comme porte leur nom, servent à quoi ? À détecter des champs magnétiques. Alors, les champs magnétiques peuvent être créés de deux façons. On peut créer des champs magnétiques par des aimants. Donc ce sont les petits aimants, par exemple, qui sont collés le long de votre frigidaire. Et un petit aimant va créer un champ magnétique qui rayonne autour de lui et qui va pouvoir être détecté par un capteur. On peut aussi créer des champs magnétiques à l'aide de courants. Si vous avez un fil électrique et que vous avez du courant qui circule dans un fil électrique, il va y avoir un champ magnétique qui est rayonné autour de ce fil électrique. Alors, de façon générale, on va pouvoir faire par exemple des bobines qui sont dessinées un petit peu comme ça, dans lesquelles on va faire passer un courant électrique, et ces bobines vont être l'équivalent de ce petit aimant-là que vous voyez ici. On va créer exactement la même figure de champ. Donc, il y a cette dualité de création de champ magnétique par un aimant, par un courant. Alors, les champs magnétiques apparaissent en fait sous deux formes assez indépendantes autour de nous. La première, c'est ce que j'appellerais les champs statiques ou très basse fréquence. C'est par exemple le champ terrestre qui nous environne. Ce sont les champs créés par les aimants de vos frigidaires. Ce sont des champs créés par les moteurs. Ça peut être les champs aussi créés par le 50 Hz. Vous avez des courants électriques, par exemple, autour de cette pièce, parce qu'elles viennent alimenter les lampes. Et ces courants électriques créent un champ magnétique autour de nous à basse fréquence. Et ensuite, il y a un autre domaine, un domaine qui est assez différent, qui sont les champs magnétiques alternatifs à très haute fréquence, qu'on dit souvent radiofréquence. Et ça, ce sont les ondes radio, les hyperfréquences, par exemple dans votre four à micro-ondes, ou toutes les communications sans fil qui nous environnent, comme par exemple la communication de cet objet-là qui commande actuellement le pointeur de ma souris. Et ces ondes électromagnétiques sont en général émises et reçues à travers des antennes. Alors l'onde électromagnétique, on appelle ça électromagnétique parce qu'en fait elle a deux composantes. Une composante magnétique, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, et une composante électrique dont nous ne parlerons pas. Alors là, je vais vous donner quelques ordres de grandeur de champs magnétiques qui nous environnent. Les champs les plus forts que l'on puisse avoir, ce sont des champs qui sont créés par des aimants à fil ou par des aimants permanents. Par exemple, ici, vous voyez deux petits aimants permanents très forts qui sont à base de néodyme ferbor et qui créent des champs de l'ordre du Tesla. Le Tesla étant l'unité de champ magnétique qui nous environne. Ensuite, si vous descendez dans l'échelle des champs, vous allez trouver les magnets sur le frigo. C'est des champs qui sont typiquement de l'ordre de 0,1 Tesla. Si vous continuez à descendre, de l'ordre de millitesla, ça va être par exemple le champ des bobines de transformateurs qui servent pour les courants électriques autour de nous. Ça peut être aussi l'ordre de grandeur des champs électriques créés par le 50 Hz dans une pièce. Ensuite, si on descend encore, on tombe sur un champ qui est très important, qui est le champ magnétique terrestre. C'est le champ qui nous environne actuellement, dans lequel nous sommes tous plongés. Et ce champ magnétique terrestre, il est un petit peu inférieur à 10-4 Tesla. Et il y a une autre unité de champ magnétique qui est l'Hochstedt, et qui est égal à 10-4 Tesla. Et ensuite, on peut continuer à descendre dans les échelles comme ça. On arrive par exemple au champ qui est parcouru par un courant d'un ampère quand on est à 1 mètre, qui est de l'ordre de 10-6 Tesla. Si on continue encore à descendre, on va rentrer dans quelque chose qui est plus ce qu'on pourrait appeler des perturbations ou du bruit magnétique. Ce sont par exemple, si vous vous placez dans une rue à Paris, et que vous mesurez le champ magnétique avec un capteur magnétique dans la rue, vous aurez des valeurs typiquement autour de 10-7 Tesla, c'est-à-dire un 10 millionième du champ d'un aimant. Si vous allez encore plus loin, vous avez par exemple le champ créé par une voiture à 50 mètres, qui serait typiquement de 1 milliardième d'un Tesla. Et on peut aller aussi beaucoup plus loin. Une simple épingle que vous servez pour coudre, crée un champ qui est 10-12 fois plus petit, c'est-à-dire 1000 milliardième de Tesla. Et enfin, une voiture très loin, à quelques kilomètres, créerait un champ qui serait de cet ordre-là, de l'ordre de 10-14 Tesla. Et donc j'ai arrêté un petit peu l'échelle à 10-15 Tesla, donc un 10 millionième de milliardième de Tesla, parce que ça correspond un petit peu, je dirais, à la limite de perturbations magnétiques qu'on a autour de nous. C'est un petit peu le champ magnétique, le bruit magnétique qui est émis par le corps, simplement comme ça, autour de nous. Alors les champs magnétiques et les capteurs, pourquoi ? Parce qu'un capteur magnétique va nous permettre de mesurer un champ magnétique. Et en particulier, il va pouvoir mesurer le champ magnétique, ou bien ce qu'on appelle un flux magnétique. Alors un flux magnétique, c'est un champ magnétique qui passe à travers une surface. Vous imaginez par exemple une certaine surface et vous passez un champ magnétique à travers, on appelle ça un flux magnétique. Et on va avoir ce qu'on appelle des capteurs de champ et des capteurs de flux. Il va pouvoir mesurer une direction du champ magnétique ou plusieurs directions. Par exemple, si vous voyez notre petit aimant là, vous voyez les lignes de champ magnétique autour et vous allez pouvoir mesurer leur direction. Par exemple, ici avec une boussole qui mesure une direction. Vous allez pouvoir mesurer une amplitude de champ magnétique, savoir si le champ magnétique est intense ou s'il est faible. Et vous allez pouvoir mesurer aussi une fréquence du champ magnétique, un peu comme l'oreille mesure la fréquence d'un son. Alors, pourquoi les capteurs magnétiques sont-ils si importants ? Ils sont importants parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans le champ magnétique. C'est que le champ magnétique rayonne à distance et le champ magnétique se détecte à distance. Donc, vous pouvez rayonner un champ magnétique et le détecter à distance. Et une propriété qui est absolument essentielle, c'est que les champs magnétiques sont faiblement arrêtés par les matériaux. Il est donc possible de transmettre une information sans contact dans un espace encombré. Et si vous réfléchissez un instant, comment est-ce que je pourrais transmettre une information sans contact dans un espace qui est occupé ? Vous regardez autour de nous, il n'y aurait pas d'autre façon que le champ magnétique. Si vous pensez par exemple à la lumière sera arrêtée par un mur. Si vous pensez au bruit, il sera très rapidement atténué par l'air. Donc le champ magnétique a cette propriété extraordinaire de pouvoir être propagé à grande distance. Et je dirais que l'exemple le plus impressionnant, c'est simplement la radio que vous écoutez tous les jours. Vous êtes capable d'écouter une émission de radio qui a été émise à des milliers de kilomètres d'ici. Et c'est simplement parce que le champ magnétique ou électromagnétique va pouvoir se transporter sur des milliers de kilomètres. Et c'est cette propriété du champ magnétique qui le rend si intéressant pour toutes nos applications et qui justifie les 4 milliards de capteurs magnétiques qui sont fabriqués chaque année. Alors le premier capteur qui a été fait, en fait le premier capteur humain qui a été fait, c'est la boussole. La boussole, elle a été inventée par les Chinois il y a 4500 ans. Elle a été utilisée par les peuples arabes et finalement est arrivée en France il y a près de 1000 ans, au moment des croisades. Et le capteur magnétique, c'est un capteur très simple. Il donne juste la direction d'un champ magnétique. Il ne donne pas ni son intensité ni sa fréquence, juste une direction. Et ce capteur, le premier capteur magnétique, a été extrêmement utile, je dirais, pour l'humanité depuis sa création. Alors, ici, vous voyez, c'est un capteur très simple qui donne simplement une information visuelle. Je dirais que les capteurs les plus vieux que nous connaissons, ce sont les capteurs magnétiques naturels. L'homme n'est pas équipé d'un capteur magnétique naturel. Il est incapable de connaître la direction du champ magnétique terrestre. Ce n'est pas le cas d'un nombreux animaux, comme le pigeon, par exemple, ou le rougouche-gorge, ou pas mal de cétacés comme les baleines à bosse, qui ont des petits capteurs magnétiques qui sont extrêmement sophistiqués. C'est-à-dire que là, on a par exemple une image du capteur magnétique telle qu'elle est à peu près dans le bec du pigeon. Et on comprend encore difficilement comment fonctionne exactement ce capteur. On sait juste qu'il est capable de donner avec une très grande précision l'inclinaison du champ magnétique et un petit peu son intensité. Le rouge-gorge a aussi, par exemple, un capteur magnétique qui lui sert à se guider pendant ses migrations. Alors, ces capteurs magnétiques sont extrêmement sophistiqués et répondent parfaitement au principe du capteur. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ils vont capter l'information magnétique et transférer cette information au cerveau où elle est traitée et analysée. Si maintenant on essaye de regarder un petit peu, je dirais, la zoologie du capteur qui nous entoure, et on va la placer sur l'échelle que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors vous voyez cette échelle qui fait près de 15 ordres de grandeur, on va pouvoir placer plein de capteurs dessus. J'en ai placé un certain nombre, de loin pas tous les capteurs magnétiques qui existent actuellement. Les premiers capteurs que l'on a, ce sont des capteurs à effet Hall, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard, qui permettent de couvrir en fait la gamme des champs intenses, je dirais. Ensuite, on va trouver tous les capteurs magnétorésistifs, dont les capteurs issus de l'électronique de spin, comme les capteurs à magnétorésistance géante ou à effet tunnel. Et on va voir ensuite des séries de capteurs qui sont un petit peu plus rares, comme des fluxgates. Ou pour pouvoir descendre encore plus bas, il existe une certaine limite ici, autour du picotesla, qui est la limite donnée par ce qu'on appelle des capteurs à température ambiante, c'est-à-dire des capteurs qui marchent à notre température à nous. Et si on veut descendre beaucoup plus bas, il faut refroidir ces capteurs, descendre leur température très bas. Et en se servant d'une propriété essentielle de la matière, très intéressante, qu'on appelle la supraconductivité. C'est-à-dire que les électrons, à très basse température dans certains matériaux, sont capables de transporter l'électricité, ces matériaux-là, sans dissiper d'énergie. Et comme ils ne dissipent pas d'énergie, ils n'ont pas de résistance, ils n'ont pas de bruit non plus. Et en se servant de cette propriété-là, on est capable de faire des capteurs qui sont incroyablement sensibles, comme peuvent être les SQUID ou des capteurs hybrides que nous développons dans notre laboratoire. Alors le premier type de capteur, en fait, n'est pas sur la liste que je vous ai donnée ci-dessus. Le premier type de capteur, c'est d'abord une bobine. Une bobine de fil, si vous prenez une simple bobine de fil dans laquelle vous faites plusieurs tours, donc une bobine de fil conducteur, et que vous appliquez un champ magnétique dessus, par exemple avec un petit aimant, et vous verrez apparaître aux bandes de ce fil-là une tension. Et cette tension va être proportionnelle, non au champ magnétique, mais à la dérivée du champ magnétique. Donc ça, c'est vraiment un capteur extrêmement simple que tout le monde peut faire chez lui assez facilement. Brancher un voltmètre dessus, vous pouvez le secouer dans le champ terrestre ou dans un aimant de frigidaire, et vous verrez apparaître une tension. Et c'est ce qu'on appelle un capteur axial, parce que vous voyez, il mesure le champ magnétique le long d'un axe, et c'est un capteur de flux, c'est-à-dire qu'il va mesurer le champ magnétique qui passe à travers la surface de la bobine. Alors ces capteurs-là, ces capteurs inductifs, sont extraordinaires parce qu'ils ont une sensibilité qui augmente comme la fréquence du champ à détecter. Donc elle va être très difficilement détecter un champ statique, c'est-à-dire un champ qui ne bouge pas, mais il va être extrêmement sensible pour détecter des très hautes fréquences. Et si, par exemple, actuellement, on veut détecter des ondes radio, ben on va utiliser des bobines. Alors, sous des formes plus ou moins sophistiquées, comme par exemple l'antenne d'un téléphone portable que vous avez là, mais c'est simplement une bobine de fil conducteur qui va capter à la fois le champ magnétique et le champ électrique des ondes électromagnétiques. Et là, vous allez trouver ça dans les radios, dans les télévisions, dans la téléphonie mobile, ou dans, par exemple, dans les capteurs d'imagerie par résonance magnétique dont vous a parlé Denis Le Bihan il y a quelques jours. Donc ces capteurs-là, ces bobines, je ne les ai pas comptés dans les 4 milliards de capteurs magnétiques fabriqués, parce qu'il y a tellement de bobines ou d'antennes autour de nous que je crois qu'on est incapable de les évaluer exactement. Donc le deuxième type de capteur dont je voudrais vous parler, ce sont ces capteurs à effet Hall. Ces capteurs à effet Hall ont été découverts par Edwin Herbert Hall il y a maintenant près de 100 ans. Et ce sont des capteurs extrêmement simples dans leur principe. C'est-à-dire, vous imaginez que vous avez simplement une plaquette d'un matériel, qui peut être par exemple d'un matériau qui peut être du silicium. Et si vous appliquez un champ magnétique sur cette plaquette et vous injectez un courant dans cette plaquette, vous voyez apparaître une tension qui est proportionnelle au champ magnétique appliqué. Donc vous avez quelque chose qui, lorsqu'on applique un champ magnétique, crée une tension qui lui est proportionnelle. Et vous avez fabriqué un capteur magnétique qui est extrêmement simple. Alors c'est un capteur de champ qui est axial, perpendiculaire, c'est-à-dire qu'il va mesurer le champ magnétique perpendiculaire à la surface de ce matériau-là. C'est un capteur de champ, pas de flux, c'est-à-dire que la formation va être indépendante de la surface du capteur que l'on utilise. Alors, le capteur de Hall a une propriété qui est vraiment précieuse pour les utilisations, c'est que c'est un capteur qui est très linéaire, c'est-à-dire que la tension qui va être mesurée va être exactement proportionnelle au champ magnétique qu'on va appliquer. Il va être absolu, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de référence extérieure. On mesure une tension, on sait qu'il y a un champ magnétique et on le connaît. Ensuite, il a un intérêt pratique, c'est qu'il est extrêmement bon marché. Un petit bout de silicium d'un millimètre cube ne coûte rien. Il coûte moins de 10 centimes d'euros. Il est assez peu sensible, mais il répond à de très nombreuses applications. Et pour cette raison, il y a près de 2 milliards de capteurs Hall qui sont fabriqués chaque année. La deuxième grande classe de capteurs que nous utilisons sont ce qu'on appelle des capteurs magnétorésistifs. C'est-à-dire, c'est des capteurs dont la résistance va changer en fonction du champ magnétique. Et c'est donc pour ça qu'on les appelle capteurs magnétorésistifs. Alors, on va avoir, je dirais, au fur et à mesure de l'évolution des années, des capteurs qui ont progressivement évolué. Les premiers capteurs magnétorésistifs que l'on a utilisés sont ce qu'on appelait des magnétorésistances anisotropes, dont la résistance variait, je dirais, de l'ordre de 1 à 2% quand on appliquait un champ magnétique, donc une petite variation de résistance. Et ce sont des capteurs qui ont été utilisés depuis maintenant une trentaine d'années. Et lorsque l'électronique de spin est arrivée, avec le prix Nobel d'Albert Fert et de Peter Kongberg, on a vu arriver d'autres types de magnétorésistance, qui sont la magnétorésistance géante, qui fait de l'ordre de 5 à 15%, et plus récemment la magnétorésistance tunnel, qui peut atteindre jusqu'à 400% de variation en fonction du champ magnétique. Donc ces capteurs-là sont des capteurs de champ, c'est-à-dire indépendants de leur taille, et ils sont axiaux, s'ils détectent une direction, et ils sont planaires, c'est-à-dire qu'ils détectent les directions du champ dans le plan. Alors l'avantage de ces capteurs-là, c'est qu'ils sont très très sensibles. On est capable de faire des capteurs de petite taille, extrêmement sensibles. Et ce sont des technologies dites de couche mince, ce qui permet de les fabriquer en grande série à relativement peu cher sur des wafers. Et donc, on fabrique en général 1,5 milliard de ces capteurs-là par an, c'est ce qui a été fait l'année dernière, et dont 2/3 sont utilisés pour les têtes de lecture de disques durs d'ordinateurs, dont parlera Claude Chappert demain. Alors, le principe de fonctionnement de ces capteurs magnétiques, je reviens un tout petit peu dessus, est assez simple, mais ça vous donne une petite idée de la technologie qui est derrière. C'est un empilement de couches magnétiques qui vont être extrêmement fines, c'est-à-dire que les couches vont typiquement faire des épaisseurs de l'ordre de 5 à 10 nanomètres. Alors un nanomètre, c'est 1/1 milliardième de mètre. Et on va faire un empilement comme ça de couches magnétiques avec des couches dites dures, c'est-à-dire des couches qui vont être insensibles au champ magnétique, et des couches dites douces, c'est-à-dire des couches qui vont tourner extrêmement facilement dans le champ magnétique. Et lorsque les deux couches douces et dures sont parallèles, on obtient une résistance qui est faible. Quand les deux couches sont antiparallèles, c'est-à-dire en sens opposé, on a une résistance qui est forte. Et entre les deux, on a une variation qui peut être relativement linéaire dans cette plage de fréquence, dans cette plage de champ, excusez-moi. Et donc vous voyez, la notion de capteur apparaît bien ici. C'est-à-dire vous avez quelque chose qui, en fonction de la direction du champ magnétique appliqué, va avoir une résistance qui va tourner. Et on utilise énormément cette propriété en faisant travailler le capteur dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone où il est le plus sensible. Et vous voyez apparaître les deux plateaux, qui sont un petit peu les plateaux de saturation, un petit peu comme notre oreille sature dans le cas où il y a un bruit trop fort. Et juste pour illustrer ça, je vous montre ici des petits capteurs que nous fabriquons chez nous. Ce sont des petits capteurs donc basés sur ces matériaux-là, qui ont la forme de petits C, et qui font des tailles, là, typiquement de 5 microns par 200 microns. Donc ça vous donne un petit peu l'idée des tailles de capteurs que nous fabriquons actuellement. Alors maintenant, la grande question qu'on va se poser, c'est finalement, bon, c'est très joli de fabriquer 4 milliards de capteurs, mais à quoi servent-ils? Et donc là, je vais essayer de répondre un petit peu à cette question-là. Et pour ça, je vous ai d'abord repris le même tableau que vous aviez précédemment, donc qui commence à tout doucement se charger. Vous voyez toujours les échelles que j'avais données, les grands types de capteurs qui étaient là. Et là, je vous donne un petit peu des applications générales. Alors, si on prend des capteurs de champ, c'est-à-dire les capteurs à effet Hall, des capteurs type magnétorésistance géante, en général, vous allez vous en servir pour faire de la mesure de position, de la mesure d'angle, de la mesure de courant. Vous allez faire aussi de l'imagerie de champ ou de courant. Et vous en avez à servir par quelque chose qui commence à débarquer, qui commence à démarrer, que l'on appelle des biopuces. Après, vous allez trouver plus sensibles des capteurs de flux, qui sont en général plus sensibles parce que comme leur sensibilité est dépendante de la taille, si vous augmentez la taille du capteur, vous devenez de plus en plus sensible. Et là, vous allez vous en servir, par exemple, pour des mesures du champ terrestre ou des mesures de champ de planète, pour faire de la détection lointaine, par exemple, être capable de détecter une onde radio ou une voiture qui passe à quelques kilomètres, ou bien pour du biomagnétisme. Alors, l'utilisation des capteurs magnétiques va pouvoir se décrire en deux grands domaines. Alors, le premier, c'est d'essayer de faire de la détection de champs magnétiques qui est créé par les aimants et les courants. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait créer des champs magnétiques avec des aimants et des courants. On va faire de la détection de ces champs magnétiques. Ça, c'est une première application, et ça peut se faire à toutes les tailles. Et nous allons un petit peu regarder comment cette détection, en fonction des tailles, donne des applications extrêmement différentes. Et ensuite, on peut aller plus loin que la détection. On peut non seulement faire de la détection, mais on peut faire aussi de l'image des champs magnétiques. Et vous verrez que cette idée de faire des images des champs magnétiques a énormément d'applications. Et on va pouvoir faire de l'image de champs magnétiques ou d'objets magnétiques eux-mêmes. Et lorsqu'on va appliquer donc des capteurs magnétiques pour faire cette détection de champs magnétiques ou d'objets magnétiques ou d'images, on va avoir des critères de choix d'un capteur. C'est-à-dire dans toute cette panoplie de capteurs qui est maintenant à notre disposition, on va choisir celui qui est le plus adapté pour notre application. Et pour ça, on va avoir quelques critères. La première, c'est par exemple l'extension du champ spatial du champ, c'est-à-dire est-ce qu'il faut détecter le champ sur une toute petite surface ou est-ce qu'il faut le détecter sur la pièce entière? Est-ce que l'intensité du champ magnétique que l'on veut mesurer est petite ou grande? C'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir un capteur qui va être peu sensible mais précis, ou un capteur qui va être peut-être moins précis mais très sensible. Et ensuite, une troisième chose qui va être importante, c'est les perturbations environnantes. C'est-à-dire, il ne va pas être utile d'utiliser un capteur très sensible si, par exemple, vous êtes dans un bruit extrêmement important ou bien une perturbation magnétique importante. Par exemple, si vous me dites ici dans cette pièce, je vais utiliser un micro extrêmement précis pour mesurer des sons et qu'en même temps, je suis dans un brouhaha qui est celui d'une salle de cantine de collège, à ce moment-là, vous allez dire que ce n'était pas la peine d'utiliser un micro si sensible. Et là, ça va être un petit peu la même chose pour les capteurs magnétiques. On va essayer d'utiliser les capteurs les plus adaptés aux problèmes que l'on essaye de résoudre. Et donc, je vais commencer par vous parler d'une application extrêmement simple des aimants. Alors, ici, je vous illustre ça avec une roue de vélo. Donc, vous imaginez une roue de vélo. Quand vous roulez en vélo, il y a beaucoup de gens qui aiment savoir à quelle vitesse ils vont. Et lorsqu'on veut savoir à quelle vitesse on va dans un magasin de vélo, on achète un petit capteur, un petit objet de ce type-là qui va mesurer la vitesse. Et comment cet objet fonctionne ? Cet objet fonctionne en mettant un petit aimant sur la roue, à une position donnée, et lorsque la roue tourne, l'aimant va passer devant un petit capteur magnétique. Le petit capteur magnétique va détecter la position de l'aimant, le passage de l'aimant, et va envoyer une impulsion à votre petit compteur qui va simplement compter le nombre de tours. Et en comptant le nombre de tours, on va savoir à quelle vitesse vous allez. Donc ça, c'est l'application la plus simple, je dirais, des capteurs magnétiques, mais extrêmement importante, parce que vous en avez beaucoup qui servent à ça, et qui simplement détectent le passage d'un aimant. Alors, en général, on va utiliser des capteurs à effet Hall pour ça, ou des capteurs dits ILS, qui sont encore plus simples, qui sont simplement une lamelle souple qui fait un contact ou qui l'arrête. Et donc, ces capteurs de position d'un aimant, de présence d'un aimant, vous allez les trouver dans les vélos, pour mesurer la vitesse, dans toutes vos voitures. Il n'y a pas une voiture qui n'a pas un compteur de vitesse, ça évite d'avoir des amendes. Et ces compteurs de vitesse sont exactement fabriqués sur le même principe. Vous allez en trouver dans les moteurs, pour exactement savoir où est la position du moteur, dans des positionneurs, pour les machines industrielles, ou dans des choses encore très simples, comme par exemple les ouvertures de portes de machines à laver, les ouvertures de vos fours, les alarmes dans les maisons. En général, vous voyez que quand vous protégez vos maisons avec des ouvertures sur chaque porte, c'est simplement un petit aimant qui est mis sur la fenêtre et un capteur magnétique qui est mis en face. Donc ces petits capteurs magnétiques et ces aimants couplés servent donc dans énormément de petits objets qui nous entourent tous les jours. Donc on peut essayer de penser un petit peu plus loin cette détection de position et on dit on va sophistiquer un petit peu maintenant ma roue de vélo avec un seul aimant dessus. Alors maintenant vous imaginez que vous n'avez plus un aimant, mais par exemple que vous mettez 50, 60, 100, 200, 300, 500 aimants le long d'une petite roue. À ce moment-là, quand chaque petite dent de la roue passe devant le capteur magnétique, vous allez pouvoir compter comme ça la position exacte de la position de cette roue-là. Et donc vous savez exactement dans quelle position est située la roue. C'est ce qu'on appelle une mesure de l'angle de rotation. Alors on peut faire ça de façon extrêmement précise. Si vous ne mettez pas un seul capteur ici, mais si vous décidez par exemple d'en mettre plusieurs, vous êtes capable d'avoir une position qui est beaucoup, beaucoup plus précise que la position de la dent. Vous êtes capable d'avoir une position qui peut être par exemple un centième de la distance entre les deux dents. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux dans tout ce qui nous entoure en termes de positionnement de moteur. Alors, pour vous donner un exemple pratique, une utilisation extrêmement importante du positionnement de la mesure de l'angle, c'est dans les moteurs de voiture. Dans le moteur de voiture, il est extrêmement important de savoir exactement où est-ce que vous en êtes dans le cycle de rotation du moteur, parce que cela vous permet d'injecter l'essence exactement au bon moment et donc de consommer beaucoup moins. Et les progrès qui ont été faits par les capteurs magnétiques pour détecter la rotation d'angle dans une voiture a permis de faire près de 30% d'économie sur les consommations d'essence. C'est absolument gigantesque. Alors ces capteurs de position, vous pouvez les imaginer pour mesurer l'angle, vous pouvez essayer de les imaginer pour mesurer simplement un déplacement longitudinal. Donc vous imaginez que vous remplacez ici vos dents par des petits aimants nord-sud, sud-nord, nord-sud, sud-nord. Chacun rayonne un champ magnétique vers le haut, vers le bas, et vous avez le long de la pièce mobile des petits capteurs magnétiques qui viennent détecter en fait l'endroit où on se situe. Et là, on arrive à des positionnements qui sont de l'ordre du micromètre avec ce type d'objet. Donc ça, donc l'utilisation principale, c'est l'automobile, c'est les moteurs électriques, c'est les machines industrielles et c'est les jeux. Les jeux est quelque chose d'extrêmement important. Vous allez avoir des capteurs de position, des capteurs d'angle dans toutes les manettes de jeu, dans les ordinateurs, dans les souris, etc. Et on va utiliser pour ce type de capteurs, en général des capteurs à effet Hall pour la plupart, et de temps en temps des capteurs de magnétorésistance anisotrope ou des capteurs à magnétorésistance géante. La troisième grande application, je dirais, des capteurs en tant que détection de champs magnétiques, c'est la mesure de courant. Donc, comme je l'ai dit, un courant électrique qui circule dans un fil crée un champ magnétique. Si vous placez un capteur magnétique à une certaine distance du courant, du fil électrique, excusez-moi, vous êtes capable de mesurer le champ magnétique qui est rayonné. Et c'est toujours la même idée qui va être derrière. C'est-à-dire qu'on va être capable de mesurer un courant sans contact. Et cet aspect sans contact, elle est essentielle, essentiellement pour des aspects sécurité. C'est-à-dire que lorsque vous mesurez un courant, il est extrêmement important pour de très nombreuses applications de ne pas venir directement se connecter dessus. Par exemple, pour vous donner si vous utilisez le clavier de votre machine à laver. Maintenant, les machines à laver ont souvent des claviers qui permettent de choisir le programme. Ce clavier-là, il est à votre contact. Dans une machine à laver, vous avez de l'eau qui circule. Si jamais votre clavier était directement relié à la mesure des courants de votre moteur, vous pourriez avoir un risque de vous électrocuter quand vous tapez sur votre clavier. Et donc, entre votre clavier et les éléments qui contrôlent les moteurs de votre machine à laver, il y a des capteurs de courant qui, en général, sont faits avec des capteurs magnétiques. Donc cet aspect sécurité dans la mesure de courant est extrêmement important. On l'utilise pour l'automobile, pour l'électroménager, pour tous les compteurs électriques que vous avez chez vous. Alors, pour vous donner un petit peu une idée du futur de ces capteurs-là, dans notre laboratoire, nous développons des capteurs qui permettent de surveiller les piles à hydrogène qui vont servir dans les voitures dans quelques années. Une pile à hydrogène permettant de fournir l'électricité à la voiture, il est extrêmement important de pouvoir la surveiller. Cela correspond à des tensions qui sont très grandes, de l'ordre de plusieurs centaines de volts, et on utilise des capteurs à base de magnétorésistance géante pour pouvoir surveiller cette pile-là. Et donc, les capteurs de courant servent pour la sécurité, aussi pour l'économie d'énergie, parce que si vous êtes capable de mesurer un courant de façon précise, vous êtes capable d'optimiser, par exemple, un éclairage ou la puissance à envoyer à un moteur. Et bien entendu, il y a des applications confort. Mon opinion personnelle, c'est que les capteurs de courant seront peut-être les capteurs qui seront les plus répandus dans une dizaine d'années dans notre environnement. Maintenant, je vais passer à une autre application qui se développe dans nos laboratoires, qui est extrêmement intéressante. C'est ce qu'on appelle des biopuces magnétiques, ou bien les laboratoires sur puces. Donc, l'idée générale, c'est de se dire... ce que vous faites comme analyse quand vous allez dans un laboratoire d'analyse où on vous prend par exemple un petit peu de sang et une semaine après vous avez les résultats vous disant vous avez de la glycémie, vous avez tel microbe, etc. Les biopuces, ça serait de pouvoir le faire juste sur un petit circuit intégré et de façon extrêmement rapide de l'ordre de la minute et pour un coût extrêmement faible. Donc, il y a actuellement plusieurs approches pour faire des biopuces, donc des approches qui sont basées sur la lumière et des approches qui sont basées sur le magnétisme. Et donc là, c'est un exemple de détection à toute petite taille. Ce que l'on va essayer de détecter, c'est des petites particules magnétiques. Quand je dis petites, ce sont des particules qui vont faire de l'ordre du micron ou plus petites que le micron. Et ces petites particules magnétiques vont avoir quelque chose, on va leur accrocher un petit bout d'une molécule qui peut être par exemple de l'ADN. Alors l'ADN, vous savez, c'est le composant essentiel de notre génome. Et ce petit bout d'ADN va être capable de reconnaître une bactérie ou un virus ou quelque chose d'extrêmement précis. Et ce petit bout d'ADN va pouvoir aussi s'accrocher sur une surface. Donc ici, vous voyez ce qu'on appellerait le récepteur, un petit peu comme une clé rentre dans une serrure. Vous avez la clé ici, vous avez la serrure. Et lorsque l'ADN va venir se coller, c'est que c'est la bonne clé dans la bonne serrure, et ça s'ouvre, et la particule magnétique reste attachée. Donc en détectant la particule magnétique, vous êtes capable de savoir si, par exemple, la bactérie ou le morceau d'ADN que vous cherchez est effectivement présent. Et vous regardez quelles sont les particules qui sont accrochées. Et donc, ce que l'on essaye de développer actuellement, ce sont des capteurs magnétiques qui sont suffisamment petits et suffisamment sensibles pour être capables de détecter une seule de ces petites particules magnétiques. Et donc là, il y a, je dirais, une sorte de course mondiale pour essayer de fabriquer ces systèmes dans lesquels on va avoir des centaines de capteurs magnétiques, tout petits, pour détecter ces petites particules magnétiques. Donc pour les biopuces, on a une autre approche qui est peut-être encore plus intéressante quand on parle du magnétisme et qui ne pourrait pas être utilisée par d'autres approches que le magnétisme. Et c'est une approche où on pourrait essayer de détecter ces petites particules magnétiques sans même les accrocher. C'est-à-dire qu'on pourrait simplement les détecter quand elles circulent dans un fluide ou dans un liquide qui pourrait être par exemple simplement votre sang. Donc l'idée de base, c'est de dire on mélange avec le liquide des petites particules dans lesquelles on a mis ce petit bout d'ADN ou cette petite chose qui permet de reconnaître et sur lequel vient s'accrocher ce que l'on cherche à détecter. Donc là, par exemple, vous voyez un exemple, une figure d'une toute petite particule magnétique qui fait 2,8 microns sur lequel il y a des cellules de salmonelle. Donc les salmonelles, vous savez, c'est toute une famille de cellules dont certaines sont extrêmement dangereuses pour la santé et qu'on peut avoir dans certains produits qui sont avariés. Et donc ces cellules viennent s'accrocher à cette petite particule magnétique. Et ce que l'on essaye de faire, c'est de détecter la présence ou non de ces cellules pathogènes simplement en mesurant la vitesse des particules. C'est-à-dire qu'avec un petit capteur magnétique, en général une magnétorésistance géante ou tunnel placé en dessous, on va venir voir passer la particule magnétique grâce au champ magnétique qu'elle rayonne, et on va mesurer non seulement le fait qu'elle passe, mais on va mesurer aussi sa vitesse et son orientation. Et on va être capable de dire la vitesse de cette particule, c'est une particule sur laquelle il y a une cellule de salmonelle ou c'est une particule sur laquelle il n'y a pas de cellule de salmonelle. Et donc on voit tout l'intérêt, je dirais, en termes d'application médicale de ces approches. Donc là, je vous ai un petit peu donné, vous voyez, la détection d'un champ magnétique. La très grosse taille, c'est l'aimant sur une roue de vélo. La toute petite taille, c'est cette petite particule magnétique qui servent dans les biopuces. Et donc maintenant, nous allons prendre un petit peu la même approche pour l'imagerie. Donc l'imagerie va au-delà de la simple détection. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de faire une détection, vous essayez de faire une image. Et donc la première taille d'image, je dirais que c'est l'imagerie magnétique à très grande distance. C'est l'imagerie magnétique, je dirais, de la Terre ou de certains objets. Donc là, c'est une photo que j'ai récupérée du Centre d'études Alexandrine, donc qui est une image magnétique qui a été faite de la surface à un endroit qui est l'île de Marea en Égypte, et dans lequel on voit un certain nombre de contrastes. Donc vous voyez peut-être pas toujours très bien sur l'écran, mais vous voyez plein de petites choses noires et blancs ici, qui sont en fait des murs. C'est les anciennes constructions qui dataient de quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Et en fait, ces constructions sont complètement invisibles. Actuellement, ce que vous voyez sur la surface, c'est uniquement du sable. Et grâce au rayonnement magnétique de ces constructions humaines, qui viennent simplement du fait que ce sont des pierres qui ont été de temps en temps ramenées d'ailleurs, vous voyez extrêmement bien apparaître les vestiges des anciennes constructions. Donc en faisant une imagerie comme ça de la surface, vous êtes capable de donner une sorte de cartographie de ce que pouvait être le village il y a quelques milliers d'années. Et après, les archéologues savent exactement où est-ce qu'il faut creuser pour pouvoir déterminer et mettre à jour les différentes pièces qui peuvent être intéressantes, que ce soit des habitations, des tombes ou des objets. Et donc pour faire ces images-là, vous voyez que les échelles sont assez petites. On va parler ici de champs qui sont de l'ordre de 10⁻⁹, donc d'un milliardième de Tesla, de l'ordre de quelques nanotesla. Et on va utiliser pour cela des capteurs de flux, qui sont soit ces squids refroidis à très basse température, ou des flux gate. Si maintenant on descend en taille, on va aller faire quelque chose qui est plus petit, qu'on avait appelé plutôt de la micro-imagerie. Donc la micro-imagerie, c'est quelque chose qui va essayer de faire des images, je dirais, du micron jusqu'au millimètre. Et pour cela, on va utiliser en général des capteurs de champ, donc des capteurs de type Hall, de type magnétorésistance géante ou des capteurs de type magnétorésistance tunnel. Donc là, je vous donne une image de quelque chose qu'on a développé dans notre laboratoire, qui est une petite barrette sur laquelle on a 20 capteurs du type magnétorésistance géante. Et ces capteurs-là viennent faire une image du champ magnétique. Donc on peut imaginer beaucoup de choses. Et là, je vous ai donné un exemple que je trouve amusant, qui est celui d'une micrométéorite qui fait 450 micromètres, qui a été récoltée en Antarctique. Alors pourquoi est-ce qu'on va récolter des micrométéorites en Antarctique? La raison, c'est que lorsque vous regardez la glace de l'Antarctique, il n'y a pas de pollution humaine. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas encore pollué les glaces. Et donc, quand vous voyez des petits points noirs, en général, ce sont des micrométéorites qui sont venus de l'espace. Et ces micrométéorites, et en particulier leur magnétisme, est extrêmement intéressant parce que ça donne des informations sur la formation de notre système solaire et notamment de ce qui s'est passé avant la formation du système solaire pour certaines. Donc ça, ce sont des études qui sont menées au CNRS, à Aix-en-Provence, au CEREJ, sur donc des systèmes qu'on développe, des appareils que nous développons dans notre laboratoire. Alors, on peut imaginer de descendre encore les tailles. Donc là, vous voyez, on avait des tailles qui étaient plutôt de l'ordre du micron, de quelques microns, et on peut aller encore beaucoup plus bas. Et là, on va se ramener dans ce qu'on appelle la nano-imagerie, c'est-à-dire on va essayer d'imager des choses avec des tailles qui sont du nanomètre, c'est-à-dire d'un milliard de mètres. Et donc là, je vous ai montré une image de quelque chose donc, qui a été fait dans notre groupe il y a quelques années, et qui est l'image d'un domaine magnétique, c'est-à-dire de la façon dont le magnétisme d'une surface est mis, avec, vous voyez en clair, des moments magnétiques, c'est-à-dire des aimants. Vous imaginez que c'est des nano-aimants qui pointent vers le haut, et en noir, des nano-aimants qui pointent vers le bas. Donc, pour pouvoir faire ce type d'image, on ne peut plus utiliser les capteurs dont j'ai parlé précédemment. On est obligé d'utiliser des capteurs un peu différents. Et là, ce sont des capteurs qu'on appelle des microscopes, donc parce qu'ils permettent de voir à des tailles très petites, à force magnétique, et qui sont faits avec une pointe magnétique extrêmement petite. La pointe magnétique est plus petite que les objets que l'on cherche à mesurer. Et cette pointe magnétique, lorsqu'elle va s'approcher de la surface, par exemple cette surface-là qu'on cherche à mesurer, elle va s'éloigner ou s'approcher un tout petit peu. Et grâce à un laser, on va mesurer un tout petit peu ce tout petit déplacement. Et ce tout petit déplacement va donner une mesure du champ magnétique rayonné et donc du magnétisme des objets. Et donc là, ça permet de descendre à des tailles qui sont jusqu'à 10 nanomètres à peu près. Alors on peut imaginer d'aller encore plus petit. Vous allez me dire, 10 nanomètres, c'est petit. Mais on peut imaginer de descendre encore un petit peu plus bas. Et quand on descend un petit peu plus bas, on va arriver à l'atome. L'atome qui est un petit peu le rêve du physicien, c'est-à-dire le rêve du physicien, c'est de voir des atomes. Et là, on va essayer de voir le magnétisme des atomes. Et là, c'est une extrêmement belle image qui a été faite donc, dans un laboratoire du CNRS à Strasbourg, donc qui est un article extrêmement récent de 2008, où on a visualisé des molécules. Donc la molécule est là, donc c'est une assemblée d'atomes dans lequel il y a un atome magnétique au centre, qui est un atome de cobalt. Et vous voyez, grâce à ce microscope dit à effet tunnel polarisé en spin, on est capable de faire une image de ces objets-là. Donc on a un petit plot en dessous qui est un petit îlot magnétique de cobalt et sur lequel chacune des molécules est là. Et ça, c'est ce que vous voyez là, c'est un petit peu le rêve de beaucoup de physiciens. C'était en fait un rêve complet il y a 20 ans et ça devient une réalité maintenant, c'est d'être capable de voir les atomes, et maintenant de voir leur magnétisme. D'être capable de dire cet atome, il a ce moment magnétique là, il a ce magnétisme. Et donc vous avez vu en magnétisme, on est passé de l'échelle de la Terre à l'échelle de l'atome. On a couvert 15-20 ordres de grandeur entre les systèmes d'imagerie magnétique et avec des applications extrêmement différentes. Et donc, pour finir, dans les 10 dernières minutes qui restent, je vais vous parler d'une autre imagerie, donc, qui est la magnétoencéphalographie, qui est aussi une imagerie, mais ici, on va faire une imagerie non d'un objet magnétique ou d'un champ rayonné. Ce que l'on va mesurer, ce sont les courants. Les courants qui circulent dans notre cerveau, et on va les mesurer grâce au champ magnétique qui est rayonné. Donc, il y a quelques jours, il y a eu donc l'exposé de Denis Le Bihan sur l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Il vous a montré pendant une heure qu'il était possible d'avoir énormément d'informations sur le fonctionnement du cerveau grâce à cette technique-là. Et là, je vais vous parler donc d'une technique un peu différente qu'on appelle la magnétoencéphalographie et qui permet de mesurer donc les courants qui circulent dans le cerveau grâce à l'image du champ magnétique qui est créé. Et donc, quel est l'intérêt de la magnétoencéphalographie? C'est qu'elle est capable d'avoir une très très grande résolution temporelle. C'est-à-dire qu'elle va venir, la magnétoencéphalographie va être un complément de l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel donne une grande précision anatomique, est capable de vous dire c'est exactement là que ça se passe, avec une faible résolution temporelle. Et la MEG, ou magnétoencéphalographie s'appelle en général MEG, elle permet de vous donner avec une faible précision anatomique, c'est-à-dire, on va dire, c'est à peu près là, mais une très très bonne résolution temporelle. Alors, si maintenant on regarde un petit peu, toujours sur la même échelle que nous avions tout à l'heure, un petit peu quels sont les signaux biomagnétiques, c'est-à-dire les signaux magnétiques qui sont créés par l'être humain. Donc, les signaux magnétiques, en général, sont créés parce qu'il y a des courants électriques qui circulent dans notre être humain. Et donc, les premiers et les plus gros, ce sont ceux les courants électriques qui viennent commander nos muscles, que ce soit l'œil, que ce soit les muscles, comme par exemple le muscle du bras. Donc, un signal biomagnétique qui est extrêmement intéressant, c'est les signaux du cœur. C'est-à-dire qu'on peut faire exactement l'équivalent de l'électrocardiogramme, mais on peut faire un magnétocardiogramme qui permet d'avoir une information un petit peu plus complète et surtout sans contact, donc extrêmement intéressante pour les gens qui sont brûlés ou en particulier pour les fœtus, où on peut faire une magnétocardiographie du cœur. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est donc l'imagerie du cerveau. Et donc vous voyez que le niveau du signal qu'il faut détecter, c'est des choses qui sont de l'ordre de 10-13 à 10-14 Tesla. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement faible. Et pour cela, il va falloir impérativement utiliser des systèmes refroidis, que ce soit des SCUID ou des capteurs hybrides. Et donc là, vous êtes en face d'une difficulté. C'est-à-dire que vous savez que le cerveau humain rayonne un champ magnétique, que ce champ magnétique donne une information extrêmement importante sur le fonctionnement du cerveau, mais vous avez quelque chose qui est 10 ordres de grandeur plus faible que le champ terrestre. Comme dirait ma collègue, c'est à peu près essayer de trouver un grain de couscous qui est posé sur la Terre. Vous êtes à peu près en face de ce problème-là. Et donc, comment arriver à faire ça? On a besoin de deux ingrédients et de combiner deux ingrédients essentiels. Donc, le premier, c'est une chambre blindée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une chambre blindée? Ce n'est pas pour mettre l'argent à la Banque de France, mais c'est quelque chose qui va nous protéger du champ magnétique extérieur. Et pour ça, on va utiliser, en fait, une chambre qui va contenir un grand nombre de feuilles métalliques, qui vont être des feuilles d'aluminium et des feuilles d'un matériau magnétique qu'on appelle du permalloy, qui est un matériau très très doux. Et donc, lorsque l'on va empiler toutes ces feuilles-là, on va arriver à atténuer à l'intérieur de la chambre les perturbations extérieures par un facteur d'environ 10 000, c'est-à-dire 10 puissance 4. Et on va rajouter à cette chambre blindée, donc à toutes ces feuilles, une mesure du champ magnétique extérieur, par exemple des voitures qui passent, de l'ascenseur qui bouge, et on va venir corriger le champ magnétique extérieur à l'endroit de la chambre grâce à des bobines de fil qui vont être placées autour de la chambre. Et avec cette double correction active et passive, on va pouvoir déjà réduire le champ magnétique à l'intérieur de la chambre blindée d'à peu près un facteur 10 puissance 7 à 10 puissance 8 par rapport au champ extérieur, notamment le champ extérieur terrestre. Et la deuxième chose qu'il va falloir utiliser, ce sont des capteurs très sensibles. Donc ici, je vous ai donné une image d'un premier capteur qui est un SCUID et qui donc est utilisé donc dans des systèmes de magnétoencéphalographie commerciale. Et pour la taille, c'est à peu près 2 cm. Donc chaque capteur fait à peu près 2 cm sur 2 cm. Et là, ce sont des capteurs donc, que nous développons chez nous, qui sont dits hybrides et qui sont basés à base de magnétorésistance géante. Alors, une fois que vous avez votre chambre blindée, les capteurs, ce que vous faites, c'est que vous mettez plein de capteurs autour de la tête de la personne dont vous voulez mesurer l'activité du cerveau. Et quand je dis plein, c'est 300 capteurs. Donc vous allez mettre 300 capteurs tout autour de la tête, et ces capteurs vont être dans un appareil de ce type-là, qui apparaît extrêmement gros. Et en fait, il est gros pourquoi? Parce que les capteurs sont autour de la tête, et tout le gros ensemble que vous voyez là, c'est en fait un gros ensemble qui contient un liquide qui permet de refroidir ces capteurs-là à très très basse température, à 4 Kelvin. Et c'est pour ça que ça donne un appareil un peu gros. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un appareil complètement passif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est envoyé au patient. On se contente d'asseoir le patient ou le sujet et simplement de mesurer l'activité de son cerveau en mesurant le champ magnétique rayonné. Donc c'est une activité complètement passive et on peut très bien faire par exemple des mesures de magnétoencéphalographie sur des bébés, même des bébés de quelques semaines. Alors qu'est-ce qu'on mesure exactement? Là c'est une vue schématique qui vous donne le signal qui est envoyé par chacun de ces nombreux capteurs autour de la tête et qui est mis sur une vision planaire. Et on va venir mesurer donc des signaux sur chacun de ces capteurs. Donc là, c'est une expérience donc, qui date d'il y a quelques années et qui consiste à exciter le nerf médian. Donc le nerf médian, c'est le nerf qui vous passe à travers le bras ici. Et donc vous l'excitez électriquement ou simplement, c'est l'équivalent de bouger son doigt. Et à ce moment-là, vous allez détecter ce qui se passe. Et ce que vous voyez, c'est, par exemple, dans cette première zone ici, vous voyez une activité qui apparaît très très vite à ce point-là dans le cerveau. Donc là, c'est une image qui est faite par imagerie par résonance magnétique. Et vous avez ce petit point d'excitation et qui apparaît très vite, au bout de 20 millisecondes. C'est l'endroit qui va commencer à recevoir l'information électrique de votre nerf médian et qui va, au cerveau, et qui va commencer à la traiter. Et quand il va commencer à la traiter, il va l'envoyer dans différentes zones. Donc la zone ici, vous voyez que le temps entre les deux, c'est 60 millisecondes. Et cette zone-là va commencer à traiter cette information pour savoir comment l'interpréter. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin, vers d'autres zones du traitement du cerveau. Et là, on va avoir des temps qui sont de l'ordre de la centaine de millisecondes. Et donc, on voit ici toute la puissance en fait de cette technique-là, parce qu'elle va vous permettre de suivre l'évolution temporelle de l'activité du cerveau et de savoir notamment quelque chose qui est essentiel actuellement en sciences cognitives, c'est de savoir qu'est-ce qui est connecté à quoi dans le cerveau. Pourquoi est-ce que telle partie va réagir et comment elle va réagir dans le temps par rapport aux autres parties. Donc voici un autre exemple que je trouve assez fascinant, qui est la différence entre entendre et voir un mot. C'est-à-dire si je vous dis auditive et si vous voyez auditive, comment est-ce que votre cerveau va traiter cette information-là ? Donc, ce qui va se passer, qu'on peut voir donc en mail, c'est d'abord l'information va arriver à deux endroits très différents. Si vous l'entendez, l'information va arriver dans ce qu'on appelle l'aire auditive, c'est-à-dire la partie du cerveau qui est directement connectée à votre nerf auditif. Si vous le voyez, c'est l'aire visuelle, donc la partie qui est directement connectée à votre œil, qui va se mettre en action. Et vous voyez, excusez-moi, la couleur jaune et rouge que vous voyez sur l'écran ici, c'est les zones où le cerveau s'active. Et ensuite, au bout d'un temps, cette information-là qui est reçue, soit par un mot, soit par la vision, va être commencée à traiter. Elle va être traitée de façon, je dirais, assez primaire au départ. C'est-à-dire qu'on va essayer de traiter ce son-là et de l'interpréter. Et donc, vous avez la zone d'interprétation du son qui se trouve ici, la zone d'interprétation visuelle qui se trouve là. Et progressivement, on va aller de plus en plus loin. Et vous voyez que l'extension spatiale du traitement s'étend et devient plus intense. C'est tout le travail que fait votre cerveau pour comprendre ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Et d'ailleurs, certaines zones vont se recouper parce que le traitement de l'information de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez entendu se passera au même endroit du cerveau. Donc vous voyez un petit peu comment on peut imager, grâce au champ magnétique qui est rayonné, le travail effectif de votre cerveau. Et donc maintenant, en conclusion, ce que j'espère donc dans ces 55 minutes qui viennent de passer, c'est de vous avoir montré qu'en fait les capteurs magnétiques couvrent des applications extrêmement variées. Et ce qui nécessite encore actuellement d'aller vers des capteurs qui sont plus petits, plus sensibles, plus précis, qui donnent plus d'informations, qui sont plus intégrés et plus économiques. Et ce que je voudrais, pour finir, c'est vous dire, je travaille dans un laboratoire de recherche fondamentale. Donc, en théorie, nous sommes là pour vraiment faire de la recherche qui est très en amont par rapport aux applications. Et ce que je trouve fascinant dans le magnétisme et dans les applications du micro et du nanomagnétisme, c'est qu'on a un mélange extrêmement intime entre recherche fondamentale et application. On peut une semaine travailler sur quelque chose qui est vraiment de la recherche fondamentale et la semaine d'après, appliquer directement cette recherche vers une application pratique qui va être un capteur magnétique qui sera utilisé par exemple pour l'imagerie du cerveau ou bien pour détecter des courants dans l'automobile. Et pour finir, ce que je voudrais, c'est remercier un petit peu les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Alors tout d'abord le groupe, en particulier Myriam Pantier-Lecoeur et les autres physiciens qui travaillent dans le domaine du nanomagnétisme et sur les capteurs magnétiques. Je voudrais remercier les postdoctorants et les docteurs, qui sont très importants, donc qui sont en fait toute la force vive des jeunes qui travaillent sur ces sujets-là et qui seront en fait les gens qui viendront vous faire un exposé dans 10 ou 20 ans ici. Tout le support technique des gens qui fabriquent les appareils que vous avez vus et qui ont servi à faire un certain nombre d'expériences. Les gens avec qui on travaille, on collabore. Et pour cet exposé, en particulier les gens du Portugal, à INESC, avec qui nous développons ces biopuces ensemble pour détecter des particules qui fuient. Et enfin, le CEA qui nous accueille depuis de nombreuses années, l'INSERM qui soutient fortement notre recherche médicale, les applications médicales de nos capteurs magnétiques, et la Commission européenne qui finance en fait nos travaux depuis maintenant près de 15 ans grâce à des projets successifs. Je vous remercie.
Eh bien, nous passons tout de suite aux questions et manifestez-vous. Voilà, on a tout de suite une ici, si vous pouvez descendre. Ici, un peu plus haut. D'accord. Attendez, après. Où est-ce qu'elle est ? Attendez, j'ai pas vu. Ah voilà, d'accord. Allez-y.
Excusez-moi la simplicité de ma question. S'il vous plaît, pouvez-vous me préciser la définition et la différenciation entre Tesla et spin? C'est possible?
Entre eux?
Ouais.
Entre quel et quelle chose? Excusez-moi, j'ai
spin, on a compris. Spin, mais...
Vous savez, Tesla, Tesla.
Tesla et spin. Alors, Tesla, c'est une unité de mesure.
Excusez-moi.
Oui. Donc, Tesla.
Stupidité, ma persistance dans l'erreur. Excusez-moi, je suis comme ça. Je suis du pays des Incas. Nous avons travaillé avec le magnétisme lorsque le Cro-Magnon encore rampait sur la Terre.
Alors,
excusez-moi, mon stupidité.
Donc, la différence, c'est que le Tesla est une unité de mesure du champ magnétique. C'est-à-dire un petit peu, je dirais, comme par exemple le décibel peut être l'unité de mesure du bruit. Donc le Tesla est une unité de mesure et le spin, c'est le composant élémentaire qui va créer le champ magnétique dans les matériaux.
Monsieur, alors en haut tout de suite, puisqu'on en a un. Allez-y, madame.
Oui, allô, oui, bonsoir. Déjà, j'ai beaucoup aimé votre expérience parce que c'était très intéressant et très simple à comprendre. Et je voudrais savoir pour les capteurs et enfin les capteurs en général, comment est-ce qu'ils transforment une grandeur perçue en une grandeur physique exploitable, par exemple électrique, etc.
Alors, par exemple, si on prend un capteur magnétorésistif, comme je l'ai montré tout à l'heure, le champ magnétique va bouger, par exemple, les moments magnétiques de la couche, et donc la résistance change. Si une résistance change en fonction du champ magnétique, si vous injectez un courant dedans, vous allez avoir une tension qui change. Et donc, ce qu'on mesure en général, c'est la tension aux bandes de l'objet. Dans le cas d'un capteur Hall, si vous appliquez un champ magnétique, vous avez une tension. Et une tension va être amplifiée. Vous allez avoir un amplificateur par derrière et qui va donner une tension, par exemple, avec un convertisseur qui va directement rentrer dans votre ordinateur.
Monsieur, ici.
Oui, merci pour la conférence. Quelles sont les principales recherches faites avec le MEG actuellement, enfin, au niveau thérapeutique ou au niveau purement scientifique, enfin.
Alors, je dirais que la MEG actuellement a deux applications principales. La première application, elle est en sciences cognitives, c'est-à-dire en recherche sur le fonctionnement du cerveau, où là, on essaye de comprendre les mécanismes et les liens entre les cerveaux. Et je dirais qu'une problématique actuelle, c'est le problème de connectivité et de traitement de l'information, comment se passe le traitement de l'information dans le cerveau. Et il y a une deuxième application qui est donc beaucoup plus clinique et qui est principalement de faire ce qu'on appelle une imagerie pré-chirurgicale du cerveau. C'est-à-dire que lorsque l'on veut opérer un cerveau, par exemple, il y a besoin d'opérer de temps en temps des personnes pour les cerveaux, que ce soit pour des tumeurs ou que ce soit pour des épileptiques. Alors, pour des épileptiques graves, c'est-à-dire des gens qui vont faire des crises d'épilepsie, je dirais 5, 10, 15 crises par jour, où là, il faut vraiment faire une opération. Il y a quelque chose qui est extrêmement important comme information pour les chirurgiens, c'est de connaître exactement toutes les zones qui sont utiles dans le cerveau. C'est-à-dire que, par exemple, si vous reprenez la zone de la parole, donc le centre auditif dont j'ai parlé, suivant la personne ici dans cette assemblée, cette zone va être déplacée de 5-10 mm. Et donc, ce qui est très important, c'est de savoir où est-ce qu'elle est extrêmement précisément. Et donc, la MEG sert à faire ce qu'on appelle une imagerie, c'est-à-dire qu'on va être capable de donner, pendant une journée, on va sur un patient, de donner une cartographie aux chirurgiens de tous les centres, que ce soit les centres moteurs, le centre de la parole, le centre de l'oreille, les centres de la vue, etc. Et lui, le chirurgien, il va avoir une carte, donc une carte d'IRM, plus une carte fonctionnelle, et avec ces deux objets-là, il va être capable de savoir comment opérer le patient sans toucher un centre critique, je dirais. Parce que se faire opérer d'une tumeur et en guérir et perdre la parole serait, par exemple, extrêmement handicapant.
Monsieur, ici, voilà, vous l'avez.
C'est à moi. Oui, j'ai Les poissons cartilagineux chez les requins, il existe des capteurs de magnétisme particuliers. Si on prend l'animal et on le met dans un récipient de verre et qu'on le pose sur un agitateur magnétique classique rotatif, l'animal suit la rotation. Et d'autre part, chez les bancs de poissons, ce qui est particulier, c'est que, quelle que soit la densité de la population, l'évolution, la migration se fait sans qu'il y ait jamais contact d'un individu sur un autre. Autrement dit, il y a un système qui maintient le banc. Alors, je me demande si vous avez sur ces observations-là quelques lumières.
Alors, il existe donc chez un certain nombre de poissons et un nombre pas négligeable de poissons des capteurs magnétiques qui permettent de se diriger dans les migrations des poissons. Alors il y a certains poissons comme les saumons sur lesquels on a déterminé qu'il existait effectivement un capteur magnétique. Sur des petits poissons en général, on n'a jamais pu pour l'instant les trouver. Après, il y a par exemple dans le cas particulier du requin, on sait que le requin a aussi des capteurs de champ électrique. Et non seulement des capteurs de champ magnétique, et c'est peut-être, dans l'exemple que vous donnez, aussi une utilisation du champ électrique plutôt que le champ magnétique. Je ne saurais pas répondre exactement là-dessus.
Allez-y. Bonsoir, je vous remercie pour votre conférence. Ma question va essentiellement, je pense, au biomagnétisme. L'objet de beaucoup de réactions de type, après votre conférence, je comprends qu'elles sont de type électrique. Lorsque il arrive que je tienne des piles électriques en main, elles se déchargent. À quoi est dû, selon vous, ce type de phénomène ? Je vous remercie.
Ce phénomène, il est simplement dû au fait que notre corps est conducteur. C'est-à-dire notre corps, il contient énormément d'eau. L'eau, quand on met du sel dedans, est un élément conducteur. Si par exemple vous prenez l'exemple de prendre un verre d'eau tel qu'il est là, vous le remplissez d'eau, vous prenez votre pile, vous trempez les deux bouts de la pile dedans, elle va se décharger extrêmement vite dans l'eau. Notre corps, il est salé, il contient de l'eau, donc il est un petit peu la même chose et il y a une certaine résistance. Donc si vous prenez votre pile à la main, le courant électrique va passer à travers votre corps et votre pile va se décharger. Si vous faites essayer une expérience un petit peu plus brutale qui consiste à mettre les deux doigts dans une prise, à ce moment-là, le courant passe à travers vous et vous êtes électrocuté. Mais c'est le même principe qui est à la base.
Oui, attendez, non. Attendez, passez votre tour, attendez, voilà, derrière. Attendre.
Bonjour monsieur, merci de votre exposé. Je suis Rafalovitch, un médecin qui a la particularité d'avoir une maladie émergente qui s'appelle l'électrosensibilité et qui est une maladie qui se développe beaucoup en ce moment. Et voilà, il faut que je fasse une petite interrogation avant de poser ma question, excusez-moi. Vous avez évoqué les besoins de la médecine pour justifier des développements techniques auxquels vous participez. En particulier, vous avez dit peut-être que les chirurgiens du cerveau vont pouvoir sauver quelques personnes en localisant bien leur tumeur du cerveau. Bon, et nous, on se rend compte que effectivement, les tumeurs du cerveau, elles sont provoquées par justement des perturbations électromagnétiques. En particulier, cette salle est équipée de Wi-Fi. Et moi, j'ai mal à la tête et toutes les personnes qui sont électrosensibles ici doivent souffrir de cette technologie. Alors voici ma question, monsieur le chercheur. C'est bien ce que vous faites, vous regardez bien dans votre microscope, mais quand est-ce que vous regardez un petit peu plus large? Et quand est-ce que vous posez des questions d'épidémiologie et vous regardez quelles vont être les applications des techniques que vous développez et que vous mettez sur le marché? Est-ce que vous viendriez dans nos associations pour discuter de ça et pour dire en tant que chercheur, qu'est-ce que vous pensez des applications qui risquent d'être faites, genre puces RFID, genre etc., qui en général effectivement ne sont pas faites pour le bienfait de l'humanité mais plutôt pour la prise de pouvoir de certains sur les autres.
Je vais essayer de répondre peut-être pas à tous les points de votre question parce que je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais je vais essayer de répondre sur deux choses. La première, c'est que je pense que les chercheurs, et c'est leur rôle, ça consiste à développer des choses. Et quand on dit qu'on développe des choses, on développe des choses dans deux buts. Le premier, c'est d'augmenter, je dirais, le confort global pour l'être humain. Le deuxième, c'est d'augmenter leur santé. Et je pense que l'espérance de vie humaine, dans les 100 dernières années, a énormément augmenté. Donc je pense que le travail des chercheurs, de cette façon-là, est relativement efficace, puisqu'on augmente la durée de vie humaine. Maintenant, pour le problème du Wi-Fi, de tout ce qui nous environne, il y a du bien et du mauvais. Je ne discuterai pas sur le fait que ça puisse ou pas créer des tumeurs, je n'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Mais ce que c'est que le Wi-Fi, ou les transmissions, comme le téléphone portable, il peut y avoir du bien ou du mal. Un exemple typique, je poserai la question, sait-on actuellement combien de vies peut sauver le téléphone portable par rapport à combien de vies elle enlèverait à cause de tumeurs du cerveau? Moi, par réponse, c'est à mon avis, elle en sauve plus qu'elle n'en enlève. Et donc, de ce côté-là, c'est plutôt un bien.
La suite. Allez-y, monsieur.
Oui. Question peut-être de profane. On analyse des énergies du magnétisme dans le cerveau, mais comment ces énergies, ce magnétisme est produit? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces données?
Tout à fait. Donc, dans le cerveau, par exemple, le champ qui est créé par le cerveau, il est créé par des courants électriques. Ces courants électriques, on peut les mesurer. Sur l'homme, c'est difficile. Sur un animal, de temps en temps, c'est possible. Et on est capable d'évaluer. Un courant, par exemple, qui passe dans un neurone, c'est un courant qui est de l'ordre du nanoampère. Donc de 10-9 ampères. Et de là, on peut calculer quel est le champ qui va être rayonné. Ah, comment est créé ce son? Donc le courant est créé par des mouvements d'ions dans le nerf. Donc je ne peux pas faire un cours actuellement sur le transport électrique dans les nerfs, mais l'idée générale, c'est que vous avez des ions sodium et potassium qui rentrent et qui sortent. Donc ce sont des réactions chimiques extrêmement rapides, et c'est cette propagation donc d'ions qui rentrent et qui sortent qui font un transport électrique dans les nerfs.
On va prendre une autre question.
C'est juste une petite précision. Qu'appelez-vous une bonne ou une mauvaise résolution temporelle? C'est ce qui semble faire la différence entre l'IRM et le MEG, justement.
L'IRM, en fait, quand on fait une mesure fonctionnelle par l'IRM, on mesure quelque chose qui est un petit peu indirect, qui est ce qu'on appelle la réponse en fait due à l'activité sanguine au moment où il y a une activité. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la seconde. Donc, vous avez une réponse temporelle de l'ordre de la seconde. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise? Elle est mauvaise parce que, comme on le voit en MEG, en fait, l'information, le traitement de l'information par le cerveau est plutôt de l'ordre de la milliseconde. Et quand vous avez une résolution de votre capteur ou de votre système de détection qui est de la milliseconde, on va dire que ce sera une bonne résolution parce qu'elle est comparable à celle de l'événement que l'on cherche à déterminer.
C'est pour le MEG, là.
Pour la MEG, oui.
Une dernière question? Ah ben non, il y en a encore une,
oui.
Une avant-dernière.
Ah. Bonsoir, j'ai deux questions. La première, c'est technique. Vous avez dit que les champs magnétiques du 50 Hz sont statiques, mais de mon point de vue, ils sont alternatifs. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alternatifs à basse fréquence. Donc voilà. Ils sont comparables à des champs statiques, je dirais.
Ben, ils sont alternatifs quand même.
Mais ils sont alternatifs.
Merci. Et puis deuxièmement, concernant les effets sur la santé, ce que j'aurais plutôt vous suggéré, plutôt que de faire une réponse qui est basée sur une opinion, ce serait d'utiliser justement votre squid, là, le magnéto, la MEG, faire par exemple la comparaison entre une personne qui vient de parler à quelqu'un en direct, avant-après, puisqu'on ne peut pas le faire en même temps, j'imagine, et puis la comparaison entre quelqu'un, avec quelqu'un qui vient de parler au portable, et vous verriez à ce moment-là en direct si le portable peut créer des perturbations ou pas. Ce serait vraiment intéressant au niveau de la recherche si vous pouviez suggérer à ceux qui sont équipés de ces équipements de faire ces recherches-là. Ça ferait vraiment avancer la chose plutôt que de donner des opinions qui ne sont pas basées sur la lecture d'études. Merci.
Je peux répondre à cette dernière question. Si vous faites une image MEG à quelqu'un qui parle dans un micro ou un portable ou quelqu'un qui parle directement à voix haute à quelqu'un d'autre, vous ne verrez pas de différence. Elle a été faite, cette mesure-là. Oui, bien sûr, je ne pourrais pas comme ça, mais on pourra vous les trouver.
Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre conférence, très intéressante. Alors, j'avais deux petites questions. D'une part, vous avez montré une cartographie en Égypte. Je me demandais comment vous affranchissez du bruit magnétique ambiant, puisque je suppose que c'est des champs magnétiques très faibles. Et deuxième question, très 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 basique. En général, quand on étudie les champs magnétiques, on nous dit un champ magnétique, ça travaille pas, c'est-à-dire que ça peut pas créer du mouvement. Une boussole, si on la déplace et qu'on la maintient et qu'on la lâche, elle va bouger. Donc il y a bien un travail qui est créé. Juste ces deux petites questions. Merci beaucoup.
Je vais répondre aux deux questions. Donc, la première, c'est la perturbation du champ magnétique. Donc, en général, on utilise un système qui est, qu'on appelle un gradiomètre. C'est-à-dire que l'on ne va pas mettre un capteur magnétique, on va en mettre deux. Donc vous mettez par exemple un capteur magnétique. Supposons par exemple que je fais une image de cette table-là. Vous mettez un capteur magnétique à ce niveau-là et vous en mettez un deuxième là. Donc le deuxième, il va mesurer les perturbations extérieures. Le premier va mesurer aussi les perturbations extérieures, mais comme il sera beaucoup plus proche de la source que l'on cherche à mesurer, la différence des deux va être extrêmement sensible à l'objet que vous cherchez à mesurer. Donc en général, on utilise cette gradiométrie. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, qui est assez fondamentale, qui est le problème de travail. Si un champ magnétique peut faire un travail. Alors la raison, comment est-ce qu'un champ magnétique fait un travail ? Il fait un travail s'il est capable de donner ou de prendre de l'énergie. Et donc un travail, c'est toujours un transfert d'énergie. Et il y a l'énergie magnétique, c'est ce qu'on appelle l'aimantation multipliée par le champ magnétique, c'est MH. Et lorsque vous changez MH, vous faites un changement d'énergie et vous faites un travail. Et lorsque, par exemple, vous mettez une boussole dans un champ magnétique et que la boussole tourne par rapport à ça, vous avez un travail qui est simplement le fait que MH change. Et si le champ magnétique ne pouvait pas faire de travail, je dirais que les moteurs ne tourneraient pas. Et actuellement, tous les moteurs tournent, et heureusement pour nous.
Bien. Claude Fermont, un grand merci.